session sur la personne humaine par le Père Marie-Dominique Philippe le 1er juillet 2002 à Saint-Judard. Première conférence.
J'espère que vous avez passé une bonne nuit, même ceux qui sont arrivés très tard le soir. Je continue ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire, il faut comprendre que dans une philosophie réaliste, celle d'Aristote, c'est une philosophie réaliste qui part de l'expérience. Et donc part toujours d'une réalité qui existe. Le philosophe s'intéresse non pas à des réalités possibles, mais s'intéresse à des réalités qui sont. Et parmi ces réalités, il y en a une qui intéresse au philosophe, c'est l'homme. La philosophie a commencé dès qu'on a voulu comprendre ce qu'était que l'homme. Connais-toi toi-même. Et la philosophie n'a pas d'autre sens que de connaître l'homme. Et parce que l'homme, on ne peut pas le connaître parfaitement sans regarder son origine, la double origine, l'âme et le corps, il y aura nécessairement le problème de Dieu qui se pose, son existence. Mais on regarde toujours l'homme. Je ne fais pas la philosophie de la vache. Ce serait intéressant. Quand on voit les charolais, ça vaut la peine. On voit qu'elles ont le sens du repos. On fait la philosophie de l'homme et donc l'expérience de l'homme. Ce qui n'est pas directement mon expérience, je le cite comme l'expérience de qui ? De quelqu'un. Je n'ai pas été dans la lune. Donc je ne peux pas faire l'expérience. Je n'ai pas donc l'expérience de la vision de la Terre à partir de la lune. C'est intéressant quand même. Ça peut intéresser le philosophe. Mais je ne peux pas le faire, alors je citerai la vision des cosmonautes. Ça ne varie pas à grand-chose. L'existence de la réalité, les cosmonautes n'ont pas été divinisés en entrant dans la Lune. Non, ça n'a pas changé grand-chose. On a même espéré qu'il n'y avait rien de changé. Ça, c'est très important. Je ne fais pas la philosophie des possibles. Je fais la philosophie de ce qui est. C'est ça l'aristotélisme. La grande trouvaille d'Aristote, c'est ça. Je pars de l'expérience et j'interroge l'expérience. Je me demande ce que ça doit. C'est très récent. C'est-à-dire à partir de Descartes qu'on a commencé la philosophie par le cogito. Je pense. C'est sûr, l'homme pense. Autrement, il ne ferait pas de philosophie. Mais est-ce que sa pensée est première ? Ah, grande question. Est-ce que le cogito peut être au point de départ de la philosophie ? Ou est-ce que c'est l'expérience ? C'est pas la même chose de dire « je suis » et de dire « je pense ». Alors, est-ce que « je suis » est premier ou le « je pense » ? Vous comprenez que c'est important, parce que tous les jours vous dormez, du moins j'espère, les soirs. Alors, vous ne pensez plus. Alors, mais vous existez toujours. J'existe en étant quelqu'un qui pense, en étant quelqu'un qui aime, en étant quelqu'un qui imagine, qui construit des châteaux en Espagne. C'est possible. J'ai hérité d'une très grande somme d'argent et faire des choses merveilleuses. Le philosophe revient à ce qui est. Et il considère que grâce à l'imagination, je peux m'évader. Je peux faire des voyages par l'imagination. Et je peux les faire réellement. C'est pas la même chose. Penser au voyage que je vais faire pendant les vacances. Un très beau voyage, Toronto. Et faire ce voyage ou lui penser, ou imaginer, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce qui est réel? Est-ce que c'est penser le voyage ou le faire? Qu'est-ce qui doit être premier? Premier, pour moi, il faut y penser. C'est sûr, après je vais le faire. Mais le faire est quand même plus réel que de penser. C'est sûr, j'ai pensé parce que je le ferai. Et quand je le fais, c'est ça qui est réel. Et je construis ma vie sur ce qui est réel et non pas ce qui est possible. Ce sont des petits points de vue. Très simple, mais extrêmement important. Est-ce que quand je lis un philosophe, je me demande toujours quel est son point de départ? D'où part-il? Est-ce qu'il part de son rêve? J'ai eu un rêve merveilleux que j'étais philosophe. Donc mon rêve est juste. C'est toujours très intéressant et très instructif. Quand vous lisez un philosophe, demandez-vous son point de départ. Quel est ce point de départ? Toutes les philosophies sont différentes d'après leur point de départ. Et après leur arrivée au terme, jusqu'où elles vont. Mais le point de départ est très important. Bien, nous sommes d'accord que nous faisons une philosophie réaliste. De la réalité de l'homme dans sa réalité, dans son expérience actuelle, son expérience qu'il a vécue, mais son expérience actuelle. Et l'homme a tout de suite cette expérience d'un autre homme. Parmi les réalités les plus impressionnantes que j'ai connues, c'est un autre homme, une autre femme. C'est l'autre. Donc, il y a moi-même et puis l'autre. Et l'autre, c'est l'homme ou c'est la réalité ou c'est Dieu, si Dieu existe. Il est quand même une réalité. Si je peux arriver à prouver l'existence de Dieu, ou si j'y crois, c'est une réalité. Vous voyez tout de suite des points de départ très différents. Vous avez donc une philosophie qui va regarder le monde physique, qui va regarder le monde des vivants, le monde de l'être. C'est la grande distinction qu'Aristote fait. Et ça n'a pas changé depuis Aristote. Depuis Aristote, il y a la réalité, la terre, les volcans, la mer. Il y a la réalité imaginative du vivant. Le vivant est plus que l'imagination, puisqu'il a tous les degrés. de la vie végétative, de la vie sensible, de la vie intellectuelle. Et puis, il y a l'intelligence. La philosophie consiste à éveiller mon intelligence. Parce que la plupart du temps, les hommes restent endormis dans leur intelligence. Imagination. Il ne faut pas de différence entre l'imagination et puis la réalité. C'est une distinction très facile à faire quand on est éveillé. Mais quelquefois, elle n'est pas si commode que ça. Alors c'est toujours très important de savoir si vous parlez de la réalité que vous avez vue ou si vous parlez d'une réalité imaginative. Le philosophe doit apprendre à l'homme d'être réaliste et de comprendre que les réalités qu'il voit sont réelles. Elles sont limitées, elles sont réelles. Ça, c'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, la philosophie a pris des noms, du moins des significations tellement différentes qu'il est utile de se rappeler dès le point de départ que je pars d'une philosophie réaliste. Et dans ces philosophies réalistes, Aristote apparaît comme le premier. Hegel considère que c'est le philosophe. Ah, c'est intéressant d'être d'accord avec Hegel là-dessus. C'est le philosophe. Et c'est intéressant, mais je ne veux pas répéter Aristote, vous comprenez bien. Ça, ce serait un historien. Or, pour répéter Aristote, il faut comprendre Aristote. Donc, il ne faut pas être seulement historien. Faut être philosophe. Si on n'est que qu'historien, Aristote, on le comprendra comme un historien, c'est-à-dire entre Platon et ceux qui suivent Aristote. Tandis que si je suis philosophe, la pensée d'Aristote m'intéresse. Aristote a commencé sa philosophie par l'expérience. Et tout ce qu'il dit est en relation avec l'expérience. On ne quitte jamais l'expérience. C'est ça le propre du philosophe. Alors, il peut quitter l'expérience en voyant le possible, mais il le sait. À ce moment-là, il sait qu'il quitte l'expérience. Et il cherche à comprendre l'homme, à comprendre ce phénomène particulier qui est l'homme, ce phénomène particulier qui est la femme. Il veut comprendre ça. C'est ça qui l'intéresse. Parce que toutes les autres réalités l'intéressent beaucoup moins. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Dans cette philosophie d'Aristote, on part de l'expérience première, et ça, ça reste toujours vrai. Vous avez déjà vu sur les plages, quand les petits gosses se réunissent et puis qu'ils font des constructions. Moi, ça me touche toujours beaucoup. Et puis, on entre en contact avec eux, ils vous expliquent ces constructions. Ils font des châteaux, ils font des grandes rues. Pour des églises. Pour Aristote, la première philosophie, c'est la philosophie de l'homme qui réalise quelque chose. Il fait quelque chose. Le facere. Il fait quelque chose. Donc c'est la philosophie de l'art. C'est la première philosophie. Je pars de l'art. Ça, c'est très très important. La philosophie du facere. Et c'est vrai que l'homme a commencé à construire avant de philosopher. Il fallait qu'il construise pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger. Tandis que s'il avait réfléchi, il n'aurait pas pu manger, il n'aurait pas pu dormir. Donc, le facere, le faire, une philosophie artistique, qu'on avait complètement oublié dans la scolastique. La scolastique ignorait ça. Alors le retour à Aristote fait qu'on revient à une philosophie du facere, de l'artiste. Le facere du manœuvre, le facere de l'enfant, par imitation, le facere de l'artiste. Puis, parallèlement, il y a faire et les intentions. La morale va naître. La morale, qu'est-ce que c'est ? C'est étudier les intentions de l'homme. Les intentions volontaires, pas l'imagination. Distinguer le volontaire et l'imaginaire, c'est pas si commode que ça. Hein ? Eh bien, le philosophe doit aborder ce problème-là, parce que c'est très important. Des gens qui ne distinguent pas entre l'imaginaire et le volontaire, ils se cassent la tête. Ça, c'est bien évident. Le point de vue moral, l'amitié. Et puis le point de vue du gouvernement. Il y a trois philosophies pratiques. Les philosophies pratiques, c'est l'étude de l'homme artiste, l'étude de l'homme dans ses intentions morales et l'étude de l'homme responsable des autres hommes. On est tous, et on a tous une dimension politique, parce que nous avons tous la responsabilité de notre voisin. Vous savez bien, quand on est en avion et que vous êtes à côté d'une personne volumineuse, il faut deux sièges pour elle. Et vous êtes le second siège à côté. Philosophie politique. Ça commence là. C'est pas la même chose d'être assis à côté de quelqu'un, n'importe qui. Non, c'est quand même, ça change beaucoup les rapports. La philosophie politique commence par ça. Tout simplement, les relations avec l'autre. Coopérer avec l'autre. Et puis ça augmente. Mais la philosophie politique doit partir de là. Et elle doit tout le temps tenir compte de ça. Elle étudie la maison, la famille. C'est dans la famille qu'on commence à avoir des relations. Et ça, c'est évident, on a tous été éduqués là-dessus. Fais attention à ton petit frère, fais attention à ta petite sœur, fais attention quand même. Ah, on apprend à faire attention à l'autre. Ça, c'est très politique, hein. C'est le point de départ de la politique, faire attention à l'autre. Celui qui ne fait aucune attention à l'autre et qui construit, c'est pas un homme politique. Or, la politique, quelquefois, devient artistique. Aujourd'hui, elle est très artistique par l'économie. On ne veut pas attention à l'autre. Il n'a qu'à suivre. Mais il est infirme. Oh, bon, alors, on le met en dehors. On met des maisons spéciales pour ça. C'est tout. Le sens politique, c'est ça. Au point de vue politique. Alors, ça va jusqu'au sommet. Celui qui est responsable de tous. Et puis, seconde partie de la philosophie, et c'est très important de distinguer les deux. Ceux qu'on ne peut pas fabriquer, ceux qui s'imposent à moi. Ceux qui s'imposent à moi, c'est quoi ? L'univers. Nous sommes tous nés dans un univers. Et c'est important. Cet univers n'a pas beaucoup changé, mais il a quand même changé pas mal depuis Aristote à nos jours. Il était beaucoup plus facile à comprendre pour Aristote, l'univers. L'eau, l'air, le feu, les quatre les enchenivaient à quatre éléments. Et pour les anciens, il y avait un cinquième élément, la quintessence. C'était la lumière. La lumière, elle est quelque chose de très particulier. On sait très bien, quand il y a la lumière, tout est changé. Quand il n'y a pas la lumière, c'est triste. Et quand on a peu la lumière, on la comprend mieux. Les gens qui vivent toujours dans la lumière cherchent l'ombre. Les gens qui vivent rarement dans la lumière cherchent la lumière. Très curieux. Mentalité des gens du nord et des gens du sud. Alors, le jour et la nuit. C'est très curieux, le jour et la nuit. Ben oui, on a vécu, nous, le jour et la nuit. Et le premier rythme, notre rythme premier, il est en relation avec le jour et la nuit. Et quand vous n'arrivez plus à dormir, c'est inquiétant. Et c'est vrai, les nuits sont très longues quand on ne dort pas. Parce que les nuits sont faites pour qu'on dorme. Alors quand on ne dort pas, c'est très long. Donc, première chose à étudier, la nature. Puis, le vivant. La vie. Puis, l'être. Ah, l'être, alors, c'est ce qu'on appelle la métaphysique. La philosophie de la nature, la philosophie du vivant, la philosophie de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? La grande parole d'Aristote. Et ça demeure. Hein, ça demeure encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je suis. Quand vous dites « je suis », ça signifie quelque chose. Puisque si je crois dans la révélation, il y a cette révélation de Dieu qui dit « je suis ». Alors le « je suis » de l'être premier à mon « je suis ». Le philosophe s'intéresse à ça, « je suis ». Tout ce qui existe. Or, en métaphysique, puisque nous allons faire de la métaphysique, je suis. En métaphysique, on étudie ce que c'est que le je suis. Et j'essaie d'étudier les causes. Les causes, c'est les pourquoi. Vous savez, les enfants posent beaucoup les pourquoi. Je me souviens, dans la gare, ici tout près, la première fois où les TGV passaient, c'était très intéressant, j'étais là sur le quai de la gare, je voyais un gosse qui posait à sa mère, « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Il voyait le train arriver, « Qu'est-ce que c'est ?» Ce train. Alors la mère répond TGV. Et le fils répond à sa mère, qu'est-ce que c'est que TGV? Alors la mère, ah, je vous en prie, tu vas voir. Elle a renvoyé à l'expérience. C'est vrai, première fois qu'on voit arriver un TGV pour un gosse. On a tous regardé. C'est majestueux. Puis surtout quand il ne s'arrête pas. Quand il passe à toute vitesse. Alors on dit, comment les anges regardent ces hommes qui s'amusent à aller à toute vitesse. C'est formidable. Vitesse du TGV. On pose des questions. Et on doit répondre à ces questions. Et ces questions restent toujours les mêmes. Depuis Aristote, les mêmes questions. On se pose les questions, en quoi est fait une montre? En quoi est fait ce papier? en quoi cette table, en quoi moi-même, en quoi cause matérielle, la cause matérielle, ce qui est radical, fondamental. La cause formelle, c'est qu'est-ce cela? Une montre. Vous auriez quelque chose d'à côté qui pèse exactement le même poids et qui serait uniquement de la matière. Vous verrez qu'une montre, c'est pas la même chose. Ah, en quoi? Qu'est-ce que c'est? En quoi? Qu'est-ce? Cause formelle. La définition de la chose. Et puis, comment ça a été fait? Le comment. Comment ça a été fait? Comment ça s'est fabriqué? Quand vous voyez un petit gosse, ou quand vous voyez une grosse machine, vous pouvez voir comment ça a été fabriqué, le petit gosse, la grosse machine. Vous voyez que la réponse est tout autre. La machine, tel atelier. Et puis vous allez voir cet atelier, et vous voyez en effet que les pièces ont été faites, et puis il sort une voiture. Et puis le petit gosse, comment il a été fait? Ah, ça c'est plus difficile. Comment il a été fait, le petit gosse? Comment? Ah, c'est sa mère. Oui, mais sa mère, comment l'a-t-elle fabriqué? Comment? Ah, le vivant peut engendrer. C'est le vivant qui fait ça. Tandis que quand je fais une machine, même si je tape dessus, je dis maintenant vie, elle ne vit pas. Elle est faite par l'homme, fabriquée. Tandis que le vivant peut engendrer. Il ne sait pas comment ça se fait. La mère ne sait pas comment ça se fait. Elle sait comment ça se fait quand il y a des ratés, quand ça ne va pas. Comment c'est pas? C'est bien mystérieux comment ça se fait. La cause efficiente, comment ça se fait? Sur le modèle de quoi? Cause exemplaire. Et enfin, la cause finale. Pourquoi? Pourquoi l'enfant est-il né? Ah, pourquoi? Il est né pour devenir un homme, pour devenir une femme, pour s'orienter dans la vie et devenir une personne. Ah, tiens, voilà, ça arrive. Vous voyez que la personne, on l'étudie qu'au terme. Ah, ça présuppose tout le reste. C'est ça qui est extraordinaire. Ça présuppose tout le reste. Philosophie de l'art, philosophie morale, philosophie politique, philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie de l'être. Chez ce petit individu, quand vous voyez un petit enfant dans le berceau, vous ne dites pas à ses parents « Oh, quelle belle personne hein !» Si vous dites ça, la mère rira en disant « Quelle belle personne !» Oui, oui, pour le moment, il prend son biberon, il n'y pense pas beaucoup, il est tout petit, tout dépendant. Quand vous voyez un homme fait et que vous êtes en admiration devant lui, vous dites « Quelle belle personne !» Ça prend toute sa signification. Il y a tout le devenir. toute la croissance pour faire la personne. Et c'est curieux, la personne, il y a le devenir et l'être. Les deux choses se rencontrent dans la personne. La personne présuppose tout le devenir naturel. Le petit enfant est devenu une personne. Et quelquefois, à cause des maladies, à cause d'une malformation, il ne deviendra jamais une personne. Il restera un pauvre petit, incapable de prendre ses responsabilités. Tiens, tiens. La personne, c'est quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités. Et elle a été éduquée pour ça. La personne, au terme, c'est quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui ne sait pas où il va n'est pas une personne. La finalité est première pour la personne. Parce qu'il peut avoir un bras en moins, ça ne touche pas la personne. C'est ennuyeux. Mais il y a des gens avec un seul bras qui sont beaucoup plus intelligents que des personnes qui ont deux bras et qui ne savent pas réfléchir. Ah tiens, la réflexion, ça joue alors pour la personne. Est-ce que vous ne dites jamais d'un animal qu'il est une personne, même d'un singe? Ils sont très proches de vous, mais quand même, ils ne sont pas personnes. Vous ne direz jamais d'un singe qu'il est une belle personne. Non, c'est réservé à l'homme, c'est réservé à la femme. Personne humaine. Ah, c'est le terme de la philosophie sur l'homme. Ça présuppose tout le reste. C'est extraordinaire, ça. Ça présuppose tout le reste. Et c'est la clé de voûte. La personne. Et elle se développe toujours. Un jeune homme à 20 ans, peut avoir sa personne, c'est vraiment une personne. Mais il va grandir, hein. Plus exactement, il va devenir de plus en plus une personne. On devient de plus en plus une personne. Jusqu'à un certain âge. Puis après, la personne décline. La personne décline. Elle perd de sa personnalité. Elle n'a plus le même caractère et la même force. Oui, il y a un devenir dans la personne. C'est vrai. Pourquoi il y a ce devenir? Ah, parce que notre corps fait partie de notre personne. Notre intelligence ne connaît pas normalement de déclin. La mémoire, ah oui, oui, mais pas l'intelligence. Elle pénètre toujours plus loin. Alors, si vous identifiez la personne à la mémoire, oui. Si vous comprenez que la personne implique l'intelligence, ah, peut-être qu'elle ira toujours plus loin, sauf en cas de maladie où l'intelligence ne peut plus fonctionner. Alors vous avez le déclin. C'est curieux comme la personne est liée au devenir. Elle est liée au devenir. Et par le fait même, elle est liée à tout le milieu dans lequel se fait ce devenir. elle est liée à la famille. La première éducation, c'est en vue d'une personne. Et si la première éducation ne se fait pas, c'est une statue au pied d'argile. Ça exprime bien ça. La première éducation n'a pas été faite. Et ça restera toujours. Et dans cette personne, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Il y aura peut-être des qualités très brillantes, extraordinaires, mais une faiblesse. Une faiblesse très radicale. Parce que l'éveil des passions, c'est pas fait. Ou c'est fait, ou c'est mal fait. Vous avez laissé le gosse manger n'importe quand, sucer sa sucette n'importe quand, même quand il était plus âgé. Vous avez laissé le gosse grandir sans prendre ses responsabilités, sans développer sa volonté, sa liberté, sans développer son intelligence. Alors, on peut rattraper. Il a mal été éduqué. Il a perdu du temps, mais on va le reprendre. Il y a un petit exemple que je vous donne, parce que ça fait très bien comprendre cela. J'étais en Palestine, à Jérusalem, au moment où ça a passé de régime, où les Juifs ont pris Jérusalem. Alors, à ce moment-là, ils ont voulu tout transformer. Il y avait les kibbutz, qui étaient l'éducation type. Et ça m'intéressait de voir comment on concevait l'éducation type. Parce que ça, ils sont intelligents et ils ont un sens de l'intelligence. Et alors, j'ai remarqué, et on me l'a dit du reste, je l'ai demandé, il y avait des infirmières spécialisées pour éduquer les petits-enfants et les prendre aux parents. Et donc, on laissait l'enfant 2 heures par jour aux parents, pas plus, à la mère. Et les infirmières qualifiés prenaient ses enfants et les éduquaient. On a fait ce régime-là un certain temps. Et puis, 10 ans après, j'ai recommencé à visiter un kibbutz. On m'a rien dit sur l'éducation. Celui qui dirigeait la visite était un Espagnol, c'était très net, un Espagnol catholique qui était passé au judaïsme. C'était très net. J'étais en Dominicain, alors je voyais tout de suite les réactions qu'il avait, et je les étudiais, je voyais bien que c'était un Espagnol qui avait été élevé dans l'Église catholique. Alors, à la fin de la visite, on pouvait poser des questions. J'ai dit, vous n'avez rien dit sur l'éducation des enfants. Moi, ça m'intéresse. Alors, il s'est mis à sourire, a dit, oh oui, 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 on a changé beaucoup. Tiens, elle a dit, comment? Oui, on a vu que les enfants pris à leur mère, n'ayant leur mère que 2 heures par jour, ça a duré pendant 5 ans, ça. Mais on a vu que ces enfants étaient en retard pour le développement de leur intelligence. Oui, ça regarde la personne, hein, pour le développement de leur intelligence. Il y avait 1 an en retard. Or, pour Israël, juive, c'est très important. Alors, on a vu que, en effet, il y avait un amour de la mère pour l'enfant qui ne pouvaient pas se remplacer par les infirmières, aussi compétentes qu'elles soient. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça. Intéressant, ça. L'amour maternel développe l'affectivité de l'enfant. Et l'affectivité permet le développement de l'intelligence. On est intelligent pour ce qu'on aime. C'est bien ça. Dès qu'on aime quelqu'un, on est intelligent pour lui. On veut le connaître. On veut savoir ce qu'il est. Et comme, au fond, l'affectivité de l'enfant ne pouvait pas s'éduquer parfaitement par ses infirmières, l'enfant était en retard. Un an de retard. En raison de la première éducation qui n'était pas maternelle. Oui, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ça. Quelque chose maternel, c'est instinctif. Ça ne s'apprend pas. Alors on est revenu, on a laissé l'enfant à la mère. Mais, alors il a ajouté, mais à 13 ans et 14 ans, les petites jalousies commencent. Le garçon est jaloux de son père, la petite fille est jaloux de sa mère, et donc les jalousies commencent. Alors, on reprend l'enfant à 14 ans, et on le rend à la famille 2 heures par jour. Alors je lui dis, je reviendrai dans 10 ans. Parce que l'éducation de la jalousie, c'est ce qu'il y a de plus difficile à éduquer. On veut toujours être premier. On veut toujours passer les autres, dépasser les autres. Et on est jaloux de quelqu'un qui vous passe dessus. Si, alors si, j'ai le droit de le faire, hein. Le philosophe peut tout lire. Le philosophe s'intéresse énormément à la Bible, parce que c'est un livre très intelligent. Et le philosophe s'intéresse énormément à la Genèse. Et le philosophe s'aperçoit que toutes les jalousies commencent dans la famille. Lisez la Genèse, vous verrez comment la jalousie s'épanouit en famille. C'est un péché terrible, la jalousie. Ça divise. Toutes les divisions viennent de la jalousie. Toutes les divisions familiales. Il y a, par rapport à ce que représente le don des parents, donc, le point de vue de l'épanouissement, de la fortune des parents. Et les jalousies sont là-dessus. Elles se développent en famille. Mais c'est plus facile pour une mère de corriger la jalousie du petit garçon, la jalousie de la petite fille, que pour une infirmière. Les jalousies ne se développent pas de la même façon. Elles se développent énormément dans un milieu familial. Et elles se corrigent dans le milieu familial. Alors, je lui ai dit, je reviendrai dans 5 ans pour voir si on revient à la famille encore. C'est pour vous montrer que le point de vue éducatif, le devenir, l'éducation est capitale pour la personne. S'il n'y a pas ça, l'éducation, eh bien, la personne va diminuer. Parce que c'est vrai, nos passions n'éduquent pas la personne. Nos passions, elles demandent d'être dominées, dépassées, pour que la personne puisse être une vraie personne. C'est très curieux. Cette constatation très simple que nous pouvons tous faire. L'éducation, donc, savoir ce qu'est la personne, c'est le terme de la philosophie. Et ça se fait du point de vue en métaphysique pour étudier l'être de l'homme se développe dans sa personne. C'est mon être, ma personne. C'est ce que je suis. Je suis une personne. Et chacun d'entre vous pouvez dire ça. Je suis une personne. Et quand vous dites je suis une personne, qu'est-ce qui est impliqué dedans? C'est ce que nous allons voir. Je suis. Alors, c'est intéressant de voir que le je suis dans la Bible, c'est la grande révélation de Dieu à son peuple. Je suis celui qui est. Et pour nous, notre je suis nous permet de comprendre ce qu'est notre personne. Notre je suis est distinct pour chacun d'entre vous. Ah, c'est bien évident. Même des jumeaux, ils diront je suis très proche, très proche, très relatif. Et ce sera du reste le danger, c'est qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Donc leur je suis est tellement lié à l'autre qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Donc ils ne sont pas entièrement je suis. Et ça restera toujours un petit peu comme ça. Parce qu'ils sont trop relatifs. Dans le je suis, vous n'êtes pas relatif, vous êtes. Et c'est ça votre personne. Les gens qui sont totalement relatifs à l'autre ne sont jamais vraiment une personne. Ah, donc, nous voyons que la personne au plan philosophique s'étudie au terme de la métaphysique. Et s'étudie juste avant, c'est très important, juste avant le problème capital de la découverte de l'être premier. Je peux philosophiquement découvrir que Dieu existe, que nécessairement ma personnalité, ma personne exige un être premier. C'est par le point de vue de la personne que je découvrirai cela. C'est très important. Mais avant la découverte de l'existence de Dieu, il y a la découverte de ma propre personne. Je suis. Et quand vous dites « je suis », si vous réfléchissez bien dans ce « je suis », qui encore une fois est propre à chacun d'entre vous. Mon je suis n'est pas le vôtre. D'abord, l'âge. L'âge joue beaucoup dans le je suis. Je suis un être de 40 ans. Je suis un être de 18 ans. Je suis un être de 30 ans. Je suis un être de 70 ans. Je suis assume tout cela. C'est important de voir le « je suis ». Nous allons étudier notre « je suis ». Ah, ce qui est intéressant, et je le dis tout de suite, on va le redire tout à l'heure, c'est que le « je suis » a été étudié surtout par les psychologues. Il y a eu comme une espèce de lacune philosophique qui n'a pas étudié le « je suis ». On l'a affirmé, « je suis ». Descartes, « je suis ». Ego sum. Je pense donc « je suis ». Ah, voyez cette chose importante de Descartes. Je pense, donc je suis. Toute la psychologie commence par le « je pense » et conclut « je suis ». Alors que, au point de vue métaphysique, je dis « je suis dont je pense ». Le « je suis » est avant votre pensée, puisqu'en vous dormez, est-ce que vous êtes encore ? Je suis. Il dort. Tandis que si vous dites, comme Descartes, « je pense, donc je suis », ah, alors votre existence propre est dépendante de votre pensée. Ah, c'est pas tout à fait juste. Alors, vous pouvez supprimer toutes les personnes quand elles ne pensent plus, quand elles sont malades, quand elles, comme vous, les tuez. Ça n'existe plus. Je pense où je suis. Ça a des grandes conséquences. Vous ne respectez les gens qu'en fonction de leurs pensées. Et vous ne respectez pas les gens parce qu'ils sont, parce qu'ils existent et qu'ils peuvent penser. Mais ils ne pensent pas nécessairement. Vous voyez, il y a le petit dilemme, hein, qui est très joli, très facile à comprendre. Psychologiquement, je pense est antérieur à je suis. Psychologiquement. Ça sûr. Métaphysiquement, je suis est antérieur à je pense. Alors le partage des autres, intéressant. Sur le point de vue psychologique et le point de vue métaphysique. Or, nous nous plaçons du côté métaphysique. Les psychologues, très bien, mais les psychologues doivent s'incliner devant la métaphysique. Parce que l'être est antérieur, pour moi, à la pensée. Je suis. C'est premier. Il n'y a qu'en Dieu où le je suis est identique à sa pensée. Et c'est le propre de Dieu. C'est le propre de l'être premier.